There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
You're beautiful.
Non, juste cet épisode où...
You're beautiful.
C'est une alarme de voiture. Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après, le numéro 66. Et comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme, à savoir Louise Petrouchka.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va super, il fait beau dehors, j'ai du jus de fruits délicieux dans mon verre, je suis en pleine forme.
Écoutez, c'est presque le soleil et l'été qui s'amènent.
Voilà, on est prêt, hein. On est prêt pour l'été. Ouais.
Et c'est, on va retrouver ça dans ta playlist aujourd'hui?
Pas tant.
Pas tant que ça. Ouais, c'est pareil, c'est un peu contrasté. Mais avant tout de suite qu'on vous présente les quatre morceaux là, qu'on a préparés pour vous aujourd'hui,
oui.
Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver ces quatre morceaux dans la playlist du son d'après sur toutes les plateformes Deezer, YouTube, Apple Music, Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les notes affairé un petit peu à ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, les artistes, les albums, ça c'est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les feeds de vos podcasts, à savoir Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, enfin tout ça.
Toutes les applications de podcast quoi, finalement.
Exactement. Si ça vous plaît aussi, vous pouvez nous rajouter des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify,
oui,
et même sur d'autres.
Il y a même des commentaires, donc n'hésitez pas à mettre.
Exactement, mettez des commentaires, on les lit et on essaye de répondre aussi un maximum sur les réseaux, parce que c'est aussi ça du coup la dernière recommandation, c'est de nous suivre sur les réseaux, à savoir Instagram, Twitter et désormais TikTok. On s'amuse bien, on fait des petites vidéos. Voilà,
c'est TikTok, des petits reels.
On explore d'autres phases et on se fait bien plaisir. Voilà, on va pouvoir commencer. Et Louise, c'est toi qui commences aujourd'hui.
Tout à fait, et je vous propose de démarrer cet épisode avec une douceur digne des meilleures pâtisseries. Elle s'appelle Molly et c'est une chanteuse ghanéenne originaire d'Accra, qui est la capitale du pays. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur l'excellent titre « Sad Girls Love Money » d'une autre artiste ghanéenne qui s'appelle Amare. Et le titre est devenu un tube en 2021 grâce au remix sur lequel posait Kali Uchis. On écoute un extrait.
J'adore ce morceau.
Moi
vraiment,
aussi.
Ah ouais, c'est oui, dans mon sang. Franchement, pour écouter ça,
On avait vu Amare le jouer à Willow Green l'année dernière, avant l'orage misérable annulé toutes les dates de la soirée. Et en fait, il faut savoir que sur ce titre, Molly chante les refrains, les premiers couplets, le bridge. Ce qui fait quand même beaucoup
mal,
pour
ouais.
Un titre qui a rendu célèbre quelqu'un d'autre. C'est un peu énorme. Et du coup, moi, j'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui parce qu'en plus d'être excellente sur ce morceau d'Amare, elle est forte partout où elle passe. Et en ce moment, du coup, on en parlait tout à l'heure, sur Instagram et TikTok, on vous partage régulièrement les morceaux qu'on écoute un peu en repeat dans le format de vidéo qui s'appelle En Boucle. Mais la vérité, c'est que moi, j'attendais qu'on enregistre un nouvel épisode pour vous ramener le projet que j'écoute vraiment tout le temps ces dernières semaines. Il s'appelle Wonder Girl et c'est donc un EP de Molly qui est sorti en 2020. Et j'avoue que dès que je sais pas quoi écouter en ce moment, je mets ça. Et à mes yeux, il a pas du tout eu l'amour qu'il mérite, puisque il y a un seul morceau qui dépasse le million d'écoutes sur son projet. Et je suis en mode, mais comment est-ce possible? C'est illégal. Donc du coup, j'ai décidé de ramener ça aujourd'hui. C'est un peu ma petite bulle de confort depuis quelques semaines. Alors je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on aille explorer cette petite bulle merveilleuse avec le morceau d'intro qui s'appelle Loud, qui est en featuring avec une chanteuse anglaise qui s'appelle Kida. It's over, I don't wanna be sober. I go higher, I go lower. Yeah, burn up, I go blow up, go blow up. I'm riding the wave, I'm vibing.
the body that I'm sliding through. Yeah, you know how I do. Yeah, you know how I do. All five shots in a row. You know how it go. You know how it go, go, go. 6, 7, then I go low. Then I go low. Then I go low, low, low. Till I can't think anymore. Till I don't feel anymore. It's 5 a.m. I've been up since 10. Rolling a blunt and smoking it up. Wake up in a minute and I don't need a man. All I need is that feeling. A couple hours on cloud nine. Don't worry, I go take my time. I let it take control. I'm on the road.
Loud de Molly en featuring avec Kida. Une petite douceur pour commencer en beauté ce nouvel épisode. Est-ce que tu as kiffé, Clément ?
Écoute, j'ai grave kiffé. Tout d'abord, je comprends tout à fait pourquoi tu écoutes ça tout le temps. Parce que ça fait du bien. Et telle la caresse entière qu'on est en train de siroter, bah oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression un
c'est
petit peu
doux.
Qu'on me fait des petits câlins des petits, avec cette musique.
Ouais.
Donc ça, c'est très agréable. Et par contre, bah, tu vas me... Parce que je... Là, alors qu'on reprendait l'antenne, tu étais en train de chantonner ce petit air au tout début.
Je sais pas là. Ce que c'est.
Ah, tu sais pas non plus ce que c'est le. Ta 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 la.
Bah,
en plus, qu'on a hyper entendu, qui a été après utilisé dans des pubs, dans
mais
tout
oui,
ça.
Mais oui, mais ça m'énerve et ça me rend folle parce que je l'ai en tête et je suis en mode qu'est-ce que je cherche.
Ouais, c'est
sur
ça.
YouTube.
J'arrive pas là.
Ta ta la la ta ta la. Mais donc moi, je vous le disais, c'est un peu ma comfort music du moment. Dès que je sors de chez moi, j'ai ça dans les oreilles. Et franchement, avec le printemps, les petits bouts de soleil qui pointent le bout de leur nez, là, c'est vraiment très apaisant. C'est vraiment dans ma to-do, là, j'ai envie d'aller me poser dans un parc, écouter cette EP et me perdre dans l'observation de tout ce qui se passe autour de moi, que ça soit les humains ou la nature. J'ai vraiment envie d'être juste béate en écoutant cette EP. Et c'est assez court parce que c'est un EP de 6 titres. Qui dure une vingtaine de minutes. Et je trouve que Molly, elle réussit à mélanger pas mal d'influences que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, on l'a entendu, il y a un côté R&B qui est très très important là.
Ouais.
Et il y a aussi dans les productions pas mal d'arrangements qui sont empruntés plus ou moins fortement au highlife ghanéen et nigérian. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Ghana Bop sur l'EP et il y a des passages mélodiques de cuivre et des basses qui rappellent vraiment ce genre musical qui est très ancré dans la culture musicale et politique du pays. Et
c'est
d'ailleurs,
ça le highlife, c'est ça, hein, oui. C'est ça quand tu dis le highlife, c'est le genre musical.
C'est un genre musical, okay, ouais, le highlife. Ouais. Bah, notamment, Fela Kuti est un peu rattaché. Même si il est aussi rattaché à d'autres genres musicaux.
Oui, c'est un peu la matrice, la coutille de toute manière. C'est un peu.
Oui, voilà. C'est, un peu
c'est vraiment.
Mais c'est en gros, ouais, c'est ça, c'est la musique assez populaire qui était la musique des années 60-70 et qui était notamment une musique assez politique parce que c'était au moment de l'indépendance du Ghana.
Ok.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que justement, sur le projet qu'elle sort ensuite en 2022, c'est un mini EP de 3 titres qui s'appelle Mahogany Street. Et elle explique qu'en le préparant, elle voulait, je cite, que les gens comprennent qu'elle vient du Ghana. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai lu plein d'interviews d'elle où en fait, les gens avaient l'air de penser qu'elle avait été élevée en Floride, puisqu'elle a un père qui est américain. Donc elle est américano-ghanéenne. Mais donc du coup, tout le monde pensait qu'elle était de Floride et elle était vraiment en mode « Non, les frères, j'ai vraiment vécu au Ghana, laissez-moi, tu vois. » Et du coup, sur ce projet-là, Mahogany Street, elle en a profité un peu pour tester d'autres rythmiques et d'autres arrangements qui sont assez cool. Et puis en 2022, en octobre, là, elle a sorti son tout premier album qui s'appelle Honey Doom, où il y a notamment quelques collaborations assez chouettes dessus. On retrouve notamment sa sœur qui s'appelle Melissa avec deux L, qu'on retrouve aussi sur un autre morceau de l'album de Amaré, et le producteur anglo-ghanéen Jules, dont on a déjà un peu discuté ici, de ci, de là, parce qu'on le cite souvent, et aussi Moonchild Sanelli sur le morceau qui s'appelle Hard, qui a une vibe un peu plus hip-hop et trap que dans la prod et dans le phrasé, mais qui est quand même très chouette.
Ouais, bah, elle amène pas mal ça, de toute manière. C'est,
oui.
Moi, je l'avais ramené où vraiment elle rappait à fond, et
ouais.
Oh, oui, je suis pas étonné que le morceau soit dans cette couleur-là.
Exactement. Et donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille forcément d'aller écouter Wonder Girl, qui est l'EP que moi, j'adore de Molly, mais aussi son 3 titres Mahogany Street, qui est nommé du coup après une des rues de son quartier, qui est notamment la rue où elle a grandi, je crois, à Accra. Et donc, il y a d'autres rythmiques dans les morceaux, et notamment une vibe un peu plus reggae sur le morceau qui s'appelle 9 to 5, qui change un peu du premier EP, que je vous recommande. Et puis... Bon, alors ça, c'est un peu facile parce qu'on l'a déjà recommandé, mais l'album de Amaré, j'ai l'impression que ça fait la 5e fois qu'on le recommande dans ce podcast.
Surtout, c'est vrai qu'on pourrait presque en parler parce que moi, tu vois, le morceau que tu nous as présenté, l'extrait au début, moi, je sais que c'est vraiment... ça reste dans la tête, c'est très très fort. Et puis l'album, il est parfait.
L'album,
quoi.
Il est super, ouais. Donc l'album s'appelle The Angel You Don't Know.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Allez, let's go.
Allez, un des prochains épisodes.
Il faut surtout que je le réécoute. Tu vois. Je le remonte haut dans ma playlist d'écoute de ouais. Ah ouais, tiens, il faut que j'écoute ça en ce moment.
Ouais, c'est très cool. Et donc, il y a un autre featuring avec Molly sur cet album-là. Le morceau s'appelle Feel Away et c'est aussi en featuring avec Melissa, qui est la sœur de Molly. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Ok, super.
On peut donc passer au son d'après.
Et ben moi, pour commencer aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de BO de films. Oui, parce que, en fait, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films, des formations professionnelles obligent. Et pourtant, il se trouve que depuis le début de ce podcast, j'ai assez peu ramené de BO, en fait.
C'est vrai.
Trop peu à mon goût. Et ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas mal de coups de cœur, en fait, qui proviennent de BO. Que ça soit de la composition originale, ou sinon des morceaux, tu sais, sélectionnés pour des films, quoi. Et c'est vrai que le rapport à une BO, c'est un peu particulier, je sais pas toi, mais moi, ça va vraiment dépendre du film. Parfois, elles sont totalement dans le film et en fait, j'y fais même pas attention. Tu vois,
oui, c'est ce dont on parlait avec Ambre.
Tout à fait, exactement. C'est vrai qu'on en avait un petit peu abordé. De temps en temps, du coup, elle est trop visible au point qu'elle en devient écœurante. Et puis, parfois, petit miracle, elle vient viser vraiment juste et toucher ton petit cœur. Et c'est ce que j'ai eu, par exemple, récemment, avec un morceau de la BO extrait du film La Chambre du Fils de Nanni Moretti, qui m'a profondément touché. Et c'est du coup le morceau que j'ai choisi de vous ramener aujourd'hui.
Okay.
La Chambre du Fils, c'est un drame qui parle de famille et comment on se reconstruit après un deuil. C'est très touchant et sensible, vous allez voir, et je trouve que le morceau accompagne vraiment bien un peu cette énergie. Et il est l'œuvre d'un pilier, en fait, de la musique, à savoir Brian Eno.
Okay.
Le morceau s'appelle By the River, on écoute ça. C'était Brian Eno et son morceau By the River.
Alors c'est très beau, mais on est en effet pas du tout dans le printemps aujourd'hui. On a décidé de vous déprimer.
Je suis désolé. C'est vrai que c'est un morceau, oui, c'est un peu plombant. Allez, on va le dire comme ça.
Non, mais franchement, c'est très beau. C'est magnifique. Sa voix est incroyable. Enfin, vraiment, en fait, je trouve assez fou la balance qu'il y a entre la sensibilité des paroles, de sa manière de chanter et tout, et en même temps, le côté un peu presque enfantin du xylophone et de, tu vois, juste ce piano.
Bah oui, tu vois,
sonne un peu comme une balade d'enfant, quoi.
Moi, je me suis noté, je trouve que, en fait, il se dégage une émotion folle du morceau. Il y a quelque chose presque d'absolu dans cette simplicité, en fait, c'est ce dépouillement. Et comme tu dis, il y a ce petit xylophone. J'ai l'impression en fait qu'on est quelque chose entre la comptine et le requiem,
ouais,
tu vois.
Exactement.
C'est du coup, c'est assez. Je pense que c'est vraiment d'ailleurs, c'est ce qui crée toute la puissance du morceau, cette espèce de grand écart et qui vient, enfin moi vraiment instantanément, je crois qu'elle est utilisée deux fois dans le film et waouh.
Et c'est lui qui fait la BO de tout le film ou c'est
non,
juste
je suis pas allé rechecker, mais je crois que c'est vraiment que ce morceau-là qui a été choisi, tu vois, à un moment bien précis. Bon, vu la puissance du truc, t'imagines un peu
l'émotion.
Voilà, l'émotion que ça peut amener. Et puis j'aime bien, c'est vrai que bah, tu retrouves, alors je vais vous en parler un petit peu, mais il y a une petite phase aussi un petit peu plus aérienne, un peu jeu vidéo, là au milieu du morceau.
Ouais.
C'est que je trouve très intéressant et qui est finalement assez typique de la musique de Brian Eno. Donc en fait ce que j'ai aimé évidemment c'est vraiment l'impact émotionnel direct de ce morceau et du coup l'avantage en découvrant ce type de morceau c'est que ça a été pour moi aussi l'occasion de me plonger un peu dans la discographie de Brian Eno. Brian Eno c'est un artiste majeur présenté comme un véritable pionnier de la musique et voilà il a plus de 60 albums au compteur sur une carrière de plus de 50 ans et je sais pas toi mais moi Brian Eno ça m'a toujours paru être une sorte de montagne à gravir.
Ouais, c'est
pour
ça,
vraiment s'intéresser à tout ce qu'il a fait, tu vois.
J'ai jamais, je pense, effleuré ne serait-ce que 4 morceaux de Brian Eno. Alors quand tu vois les 70 albums, t'es un peu en mode bon.
Ouais, c'est trop gros, tu sais.
Par où commencer, ça je ne sais pas.
Exactement. J'avais jamais. Il y avait une part de moi, c'est qu'il y avait cette curiosité de se dire tiens, mais en fait, pourquoi c'est quelqu'un d'aussi important dans la musique, etc. Mais quand t'as pas forcément l'angle d'attaque là, j'avais mis ça de côté. Parce que c'était trop impressionnant. Et
ouais, tout en sachant qu'il fait forcément partie de plein de trucs qu'on a écoutés sans le savoir, quoi.
Bah, c'est ça qui est passionnant. Et c'est là, il faudrait 3 épisodes pour décrire la carrière de Brian Eno. Donc, je vais juste tâcher de gratter un petit peu les premières. Tu vois, moi, je pense avoir gratté à peine un dixième de sa carrière musicale. Moi, je vais essayer de vous faire une petite présentation rapide. Brian Eno, il est surnommé Brain One. Le cerveau numéro 1 pour son approche en fait très réfléchie, très expérimentale et méthodique de la musique. Et moi, chose que je ne savais pas par contre, c'est qu'il a eu un peu plusieurs carrières. Tu vois, il commence en fait au début des années 70 en tant qu'ingé son et claviériste pour un groupe de rock qui s'appelle Roxy Music.
Okay.
Roxy Music, c'est le groupe de Brian Ferry. Je pense que ce nom-là, t'as déjà dû l'entendre aussi,
pas
non ?
Pas du tout, ça me parle pas du tout.
Et bah, Brian Ferry, c'est un chanteur. Qui a fait du rock, un peu pop. Enfin, moi, c'est comme ça. J'avoue que je n'ai pas plus creusé la carrière de Brian Ferry, mais je sais que c'est un nom assez important.
Il y avait déjà celle de Brian Eno.
Oui, tu vois ce que je veux dire. Et c'était déjà beaucoup. Et à ce moment-là, du coup, il amène directement, en fait, par les synthés et tout, les premières sonorités électroniques, on va dire, dans la musique rock.
Okay.
Et sauf que rapidement, le courant ne passe plus avec Brian Ferry. Il y avait visiblement un Brian de trop dans ce groupe. Et Eno, du coup, se lance en solo. Et il commence à sortir des albums de rock sur lesquels tu entends déjà qu'il expérimente pas mal de sonorités électroniques. C'est assez intéressant d'aller écouter parce qu'en fait, t'as vraiment la patte du rock anglais des années 70, mais toujours avec une sorte de petite bizarrerie qui est assez intéressante à écouter. Il est à l'origine, à ce moment-là aussi, avec Robert Fripp, qui est le guitariste des Crimson, de toutes les techniques un peu de boucle et d'étirement du son dans la musique, tu sais, qu'on voit généralement sous la forme genre d'une pédale pour un guitariste.
Ouais.
Tu vois, toutes ces techniques-là, et ben en fait, c'est Brian Eno qui les met au point à l'époque.
He's the man. Okay.
Voilà. Plus tard, il est aussi un peu celui qui sera à l'origine un peu de toute la technique du sampling. Donc juste déjà ce leg-là, il est monstrueux, tu vois, dans la musique mondiale. Donc, c'est... Ça fait partie des choses qui fait.
Pas fait grand chose pour la musique, mon gars.
Voilà, c'est
une des techniques les plus utilisées au monde.
T'es à l'origine de tout, ouais, c'est ça, tu vois. C'est et c'est aussi ces expérimentations qui vont le mener à devenir le pionnier de la musique dite ambiante. Ambiante, c'est cette musique généralement électronique qu'on pourrait juger d'être un peu atmosphérique et destinée à être une musique en fait qui s'écoute soit de manière active, soit vraiment de manière totalement passive. Ça, c'est une musique presque d'espace, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, dans cette logique. Il va devenir à terme un artiste aussi créateur d'installations sonores. C'est aussi quelque chose qui fait sa réputation aujourd'hui. Et cette patte expérimentale, plusieurs artistes vont venir la chercher pour les aider à la production de leurs disques. Le premier et le plus connu est bien sûr David Bowie, qui vient le chercher pour sa trilogie dite berlinoise avec Heroes, qui est un peu genre le morceau phare de cette période-là. À la même période, il va aussi beaucoup travailler avec les Talking Heads. Plus tard aussi, il sera à l'origine des albums qui vont faire exploser U2 au niveau mondial.
Ok.
Pas mal quand même. Et puis après, voilà, on peut noter parmi les collaborations remarquées, Coldplay avec sur Viva la Vida, avec Damon Albarn.
Ouais. J'aime qu'on passe de Talking Head à Coldplay Viva la Vida.
Bah, en même temps, je trouve que le... C'est intéressant parce que je trouve que le il y a une sorte de logique, tu vois, parce que et au milieu tu rajoutes U2, je trouve que c'est pas totalement déconnant en fait.
Oui, la suite logique se fait Talking Heads U2 Coldplay.
Après peut-être que tu ressens moins l'aspect expérimentation, on peut peut-être dire, mais encore même Viva la Vida franchement, moi je sais que c'est un album que j'ai énormément écouté dans mon adolescence.
Et on en a déjà parlé,
et quand
I
même,
know.
Franchement, mettez du respect sur cet album de Coldplay. Et puis franchement, un Stade de France qui chante oh, 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 comme ça en cœur, c'était,
tu le fais très bien.
C'était incroyable. Bref, quand même, par la suite aussi, il va collaborer notamment avec Damon Albarn, avec James Blake. Bref, il a vraiment un CV long comme le bras. Je peux pas tout vous décrire. Si, quand même, fun fact, après je m'arrête de vous noyer sous les références, mais il est le créateur musicien. Tu sais, celui qui a créé la musique de démarrage de Windows 95.
Ah oui, ça, je savais jamais cette voilà. info.
Pour les gens de notre génération, c'est un petit clin d'œil et bon, tout le monde a déjà dû entendre.
Tu pourras mettre l'extrait ?
Je pourrais le mettre maintenant. Et ça, pareil, dernier petit fun fact, parce que je trouve que c'est aussi intéressant, je pense, pour décrire le bonhomme dans sa manière de créer aussi de la musique. Il a créé un jeu de cartes qui s'appelle Oblique Stratégie, contenant en fait des aphorismes cryptique, censé stimuler un peu la pensée créatrice.
Déjà, tu m'as perdu.
Ouais, bah c'est, en fait, je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Mais en 95, alors qu'il a enregistré un album avec David Bowie, David Bowie disait « Ma carte disait, tu es un devin et un crieur public dans un monde où tous les médias ont disparu. »
Ok.
Est-ce que tu vois le délire ? En fait, tu tires une carte.
Et ça t'inspire pour un truc ?
Et c'est, ouais, c'est okay. ça vient stimuler ton imagination par rapport à une sorte de rôle là où, tu sais, voilà, par rapport okay. à ce type. Et je trouve ça hyper intéressant comme manière un petit peu de, ouais, de chercher à se stimuler la création. Donc voilà, ça peut être un peu weirdo, un peu bizarre comme approche. Mais voilà, c'est pour essayer de vous brasser un rapide contour de qui peut être Brian Eno.
Sacré bonhomme.
Voilà, donc maintenant pour prolonger l'écoute, je vous recommande son premier album, Here Come the Warm Jets. C'est vraiment dans le style rock anglais des années 70, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure avec voilà, quelques expérimentations musicales en bonus. Aujourd'hui, peut-être qu'en écoutant, ça paraît pas si fou, mais en fait, juste pour l'époque, faut voir le grand écart. Quoi.
Ouais.
Moi, c'est vrai qu'en écoutant ça, j'ai l'impression d'entendre un, vraiment... Je comprends l'affiliation avec David Bowie, elle est assez évidente là-dedans.
Ouais, puis souvent, il faut se remettre dans le... C'était quoi le top 40 de l'époque quoi, pour comprendre...
Alors, je l'ai pas, mais c'est sûr que le milieu des années 70, vous voyez... Enfin, je crois que l'album sera en 74. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à écouter cet album. Je saute du coup à une autre partie de sa carrière. J'ai envie de vous recommander l'album Ambient 1, Music for Airport. Bon, j'adore, j'ai écouté ça en travaillant, c'est incroyable, ça transporte totalement. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai senti dedans, en fait, que c'est, je pense à très certainement que cet album est une grosse, grosse, grosse ref à une autre BO que je trouve assez exceptionnelle, celle faite par Arcade Fire pour le film Her.
Okay.
Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là et écouté la BO.
Non, malheureusement.
Et ben, la BO, moi, je la trouve vraiment magnifique. Et quand j'ai entendu cet album, je me suis dit, ouh, je serais pas surpris quand même que qu'ils aient écouté ça, Arcade
Fire.
Ah
oui, okay.
Tu vois. Et la dernière BO que je vais, enfin la dernière recommandation qui sera aussi une BO que je vais vous recommander, c'est la BO de Call Me By Your Name, parce que en l'occurrence, pour revenir au tout début, c'est d'ailleurs le morceau By the River que je vous ai fait écouter, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui m'a touché, c'est que j'ai trouvé sa cousin au morceau assez magnifique qu'on peut retrouver dans la BO de Call Me By Your Name, composé par Sufjan Stevens,
ouais.
Voilà, exactement. Et le fameux Mystery of Love, le fameux, je sais pas si c'est fameux,
aussi,
mais en tout
fameux,
cas,
oui,
je pense qu'il y a un certain nombre de gens...
Tous les gens qui ont vu Call Me By Your Name connaissent ce morceau. Voilà. Et même Sufjan Stevens, c'est quand même un artiste assez...
Assez important. Et je trouve qu'en fait, on retrouve la même sensibilité ou quelque chose que qui crée vraiment ce, le même type d'émotion que le morceau By the River de Brian Eno. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à aller écouter. Si vous avez la foi, vous pouvez plonger dans la discographie de Brian Eno. Les recommandations que je vous ai faites peuvent être une sorte de première approche. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire en termes de devoirs, ouais.
Je vous propose qu'on passe au son d'après.
De mon côté, je viens vous parler de la productrice, chanteuse et DJ américano-coréenne Yeji. Elle s'est fait connaître du grand public il y a maintenant 6 ans à peu près, quand elle a sorti ses tout premiers EP à 6 mois d'écart. Le premier auquel elle donnait son nom, Yeji, et le second qui s'appelle simplement EP2. À l'époque, sur ce dernier, c'est le titre Rain Girl qui l'a fait connaître. Pour les gens à qui ça ne dit rien, voici un tout petit extrait. Si vous connaissez, ça va très vite vous revenir dans la tête. When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 Make it rain, girl, make it rain.
Pareil, ça c'était sacré morceau.
Ouais.
Moi je crois que c'était le deuxième morceau que j'avais dû écouter, un morceau juste avant d'elle, et sur celui-là je fais ah ouais.
Et
ouais.
Un titre très efficace à la frontière de la house et du hip-hop, avec une grosse basse bien intense et un refrain en quatre mots très répétitif. Make it rain, girl, make it rain. C'est tout ce qu'il faut pour faire un tube.
Exactement.
Perso, moi, je la découvre à ce moment-là, comme beaucoup de gens, je pense. Et malgré tout, ça fait déjà plusieurs années qu'elle évolue à l'époque dans la scène new-yorkaise électro, notamment en tant que DJ à des soirées plutôt house. Et en fait, en 2017, c'est aussi l'année où elle fait sa première Boiler Room qui accélère un peu la hype et l'attente autour de ses projets. Et finalement, il faudra attendre 3 ans, en 2020, en pleine pandémie mondiale, pour qu'elle sorte un nouveau projet sous forme de mixtape chez XL Recordings, qui est son label, qui s'appelle What We Do. Drew, personnellement, j'étais complètement passée à la masse de cette mixtape. Alors moi, c'est début avril dernier là, que je vois partout qu'elle a sorti enfin son premier album studio. Alors je suis ravie de pouvoir reposer une oreille sur ses productions et de voir un peu comment tout ça a évolué. Le disque s'appelle With a Hammer. Et avant d'en parler, je vous propose qu'on en écoute un extrait. J'ai choisi le titre Radio or Not en featuring avec Kay Wata. Ready or Not de Yeji en featuring avec Kawata, qui est un producteur new-yorkais sur lequel je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Car ça a l'air d'être un bébé producteur, je crois qu'il a sorti un seul EP. Bref, Yeji, Clément, qu'est-ce qu'on en a pensé ?
Écoute, moi c'est une artiste que, bah, comme toi, je l'avais découvert avec, tu vois...
Son EP là.
Ouais, son EP.
Sa reprise de Drake donc.
Exactement, il y avait Passion Fruit, je suis en écoutant le morceau, je suis retombé dessus, et je crois que c'est ça le tout premier morceau sur lequel, ouais, qui me fait tomber sur elle. Je me souviens avoir écouté la mixtape, je vois que j'avais coché des quelques morceaux,
ah oui,
mais en même temps j'en ai pas un grand souvenir, je vais pas mentir. Et j'avais écouté un peu cette mixtape, j'avais écouté en plus en travaillant, donc j'avoue que j'avais pas eu une écoute très active.
Ce nouvel album là.
Ouais, mais en tout cas là du coup, en me concentrant sur ce morceau là, j'aime beaucoup le fait que le morceau parte dans plusieurs directions.
Ouais.
Tu sais jamais où ça va retomber, et ça j'aime, voilà, c'est, oui, très agréable, ouais, dans la musique toujours, exactement. Puis tu sens, je sais pas, du coup ça prend son temps, et on travaille une partie, puis une deuxième, puis une troisième, puis tout se retrouve à la fin. Et tout ça sonne en fait juste très très travaillé.
Ouais.
Donc non, c'est chouette, ça me donne envie d'aller réécouter plus attentivement du coup l'album, parce que ouais. Ça en tout cas, là, je me dis ok, il y a du travail quoi.
Ouais c'est ça, bah moi pourquoi j'ai choisi ce morceau, c'est parce que je trouve qu'en effet il y a une évolution vraiment assez intéressante, et tu sens que Yeji c'est une bosseuse et une fan d'Ableton, je sais pas comment dire, mais ça s'entend.
Elle passe des heures derrière
qu'elle, ouais, je pense qu'elle doit bien poncer son Ableton. Et en fait, je trouve qu'il est assez chouette parce qu'il commence a cappella comme une espèce de balade. Et puis, en fait, il y a les premiers sons qui arrivent et tout de suite, t'es un peu décontenancé parce que ça sonne hyper chelou, futuriste. Et maintenant, on sait que j'ai un intérêt assez passionné pour les trucs chelous, futuristes. Et je trouve ça hyper calme par moment. Puis ça s'énerve, mais ça part jamais vraiment. Il y a un moment où il y a un build-up, ça monte. Et t'es en mode, vas-y, elle va nous lâcher un truc. Et non, mon gars, c'est genre le max, c'est une grosse basse, c'est tout, tu vois.
Mais c'est cohérent, je trouve, c'est ça qui est cool.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que je trouve que moi je l'ai pas senti comme une frustration par exemple à l'écoute.
Non,
tu vois. Tu dis non, c'est pas l'esprit du morceau quoi.
Exactement. Et du coup pour moi ce titre, il a un côté très contemplatif, je me vois bien l'écouter j'ai une vision très précise, mais un soir d'insomnie de canicule, allongée en étoile de mer dans mon lit comme ça, à regarder le plafond et à me dire qu'est-ce que la vie finalement. et de manière générale en fait, je trouve que c'est un peu le concept qui est tiré dans tout ce disque. C'est un album qui est très intéressant musicalement parce qu'elle se tourne vers plein d'inspirations et de genres musicaux différents. On peut passer de sons hyper infusés par la techno, la drum and bass, notamment sur le morceau For Granted qui est un peu plus un côté drum and bass. Et puis il y a des morceaux qui sont un peu plus pop, synth-pop, presque ambiante. C'est un melting pot de plein de trucs.
Ouais.
Et pourtant, tout fait sens. Quand t'écoutes cet album, il n'y a aucun moment où tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, tu vois. Je trouve que vraiment ça va dans son univers qui est forcément très construit par les musiques électroniques, qui est la culture musicale dans laquelle elle a évolué le plus, je pense. Ça s'entend même là dans le morceau qu'on a écouté, par ses choix de samples de batterie, par la manière dont elle traite les sons aussi et comment elle cut sa voix, tu vois, là dans l'extrait qu'on a entendu, il y a plein de moments où elle cut sa voix pour en faire des samples un peu saccadés et tout. Et en plus, c'est un album qui a une assez belle histoire, qui est assez introspectif, puisqu'en fait, il débute pendant la pandémie en 2020. Et forcée comme tout le monde de rester chez elle avec ses pensées et ses souvenirs, Yeji finit par capter qu'elle a mis en bouteille sous le tapis dans la cave au 6e, au moins 6, 28 ans de colère et d'injustice qu'elle a vécu. Et en fait, je le disais, elle a une voix un peu enfantine et tout, mais tout ce qu'elle raconte ouais. dans ce disque, ça l'est très peu, parce qu'en fait, c'est à la fois et très intime, puisque c'est lié à ses souvenirs et tout, et très politique, puisque en fait, c'est donc une meuf qui est américano-coréenne, et donc elle a vécu la moitié de sa vie aux États-Unis dans des quartiers à grande majorité blanche où elle a subi pas mal de racisme, pour ensuite déménager à Séoul où elle a vécu à l'inverse une incompréhension folle d'être à la fois entourée de gens qui lui ressemblaient, qui parlaient coréen et qu'elle pouvait parler enfin à tout le monde coréen, et en même temps en étant l'étrangère parce que elle venait des États-Unis
ouais.
et du coup elle avait un accent quand elle parlait ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc c'est tout ce non-sens et cette injustice qui est ressortie pendant ces mois d'isolement, ce à quoi en plus s'ajoute à l'époque le Covid-19, il y a eu beaucoup d'agressions racistes envers les personnes asiatiques suite à ça, et du coup t'imagines bien l'état mental dans lequel en tant qu'artiste tu peux te retrouver dans ce genre de moment. Et du coup comment est-ce que quand t'es un artiste tu gères tes traumas,
emmagasiner ça jusqu'à ce que ça sorte en musique.
Exactement. Donc comment est-ce que tu gères tout ça et que tu les transformes en autre chose que des traumas? Et t'écris un disque. Et donc elle s'est assise avec ses sentiments de colère et de rage et d'injustice, et elle en a fait de la musique, et elle a posé des mots sur tout ça. Et du coup, il ressort cet album qui est vraiment hyper intéressant. Et en plus, faut savoir que Yeji, elle a une formation, je crois, de graphisme. Enfin, elle a fait plein de trucs au niveau artistique, etc. Et il me semble qu'il y a toute une sorte de mini BD, en tout cas de... comment ils appellent ça ? Un outlet ? Un presslet, je ne sais plus. Bref, il y a une espèce de mini BD qui va avec l'album,
okay.
qui s'appelle donc With a Hammer. Et en fait, le hammer, c'est un marteau, et elle a un marteau sur la
cover. Sur la cover, ouais. Ouais. Le gros marteau. Ouais.
Et en fait, c'est un marteau qui représente sa colère, et donc du coup, il y a toute une histoire liée à ça. Ils en ont fait un peu un espèce de mini en fait, elle est hyper passionnée par les animés, donc il y a tout un truc autour de...
Oui, une petite histoire voilà. En plus, quoi, qui vient rajouter à l'univers, en
donc,
tout cas.
Donc, ça permet aussi de transmettre pas mal de trucs. Et en fait, elle chante en anglais et en coréen sur cet album, mais parfois, ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, elle explique que, par moment, bah, les mélodies ou les paroles en yaourt suffisent
ouais.
à exprimer ce qu'elle veut transmettre. Donc, j'ai trouvé ça assez chouette, et je vous invite vraiment à écouter ce disque, qui est donc ma première recommandation pour prolonger l'écoute. La deuxième recommandation, c'est bien sûr son EP 2, où il y a Rain Girl, mais aussi du coup Passion Fruit, la reprise de Drake, qui l'a fait connaître.
Ouais, c'était très efficace, ça.
Ouais, c'est très bien. Et la dernière reco, c'est un petit pas de côté, puisque je voudrais vous recommander d'aller regarder son Against the Clock, qui est une émission de Fact Magazine sur YouTube, où il laisse 10 minutes à des producteurs et productrices pour faire un son. Bon, en général, c'est une boucle plus ou moins avancée, tu vois, d'un début de morceau, mais je trouve ça assez cool pour découvrir comment les gens travaillent, sur quel logiciel, par quoi chacun, chacune commence, etc. Et du coup, bah voilà, si je vous invite à aller regarder ça, c'est sur YouTube, c'est dispo. Et il y en a plein d'autres en plus, il y a plein de super artistes qui sont passés dans Against the Clock. Donc voilà, c'est tout pour moi.
Ok, très bien. Et ben on va aller checker ça.
Et ben on peut passer au son d'après alors.
Et bien pour terminer, j'avais envie de vous parler de Sheldon. Sheldon, c'est le membre fondateur et épicentre de la 75e session, ce collectif parisien très orienté rap dont tu nous avais déjà touché quelques mots à l'époque quand tu avais ramené Ziné. Je crois que c'était peut-être à l'épisode 2.
Et toi aussi peut-être quand tu avais ramené Népal par exemple.
Oui, peut-être, mais je suis pas sûr que j'avais trop parlé de la 75e session. Mais
bon,
peu importe, en tout cas, clairement, on aime bien. On aime bien, en tout cas, la 75e session. Et Sheldon, c'est, comme je disais, un peu l'épicentre de la 75e session aujourd'hui. Et parce qu'il a plusieurs casquettes, il est rappeur, il est ingé son, il est producteur et il est multi-instrumentiste. Moi, je pense que la première fois que j'entends parler de lui, ça doit être en 2011 ou en 2012, dans les textes de Giorgio, en fait, dans les toutes premières mixtapes du rappeur. Il le citait régulièrement, tu sais, dans ses textes de « Ouais, je travaille avec Sheldon », ce genre de... J'ai pas la phase exacte, mais c'était globalement l'idée. Et
mon
puis...
copain, c'est Sheldon, il est super.
Exactement. Et puis du coup, en m'intéressant un petit peu à la 75e session, tu vois rapidement en fait qu'il revient au crédit de tous les projets de cette époque. Le collectif est petit à petit devenu un label qui regorge de talents comme les rappeurs SPM, évidemment Népal à l'époque, Sopico. Et au milieu de tout ça, Sheldon qui commence lui aussi à sortir ses premiers projets que j'écoute à l'époque. Et à ce moment-là, sa musique était globalement, je trouve, assez sombre, avec beaucoup de références assez geeks, des bruitages de jeux vidéo que je captais pas forcément, donc c'est pas quelque chose qui me touchait plus que ça. Même si je dois par contre reconnaître qu'il avait vraiment, je trouve, son univers. Et puis en 2021, c'est avec son album Spectre qui marque en fait un peu un tournant. Il devient un peu plus intime, les textes sont aussi, je trouve, un peu plus universels, il se met à chanter aussi, et j'avoue que ça, d'emblée, ça me parle beaucoup plus. Parce que Sheldon écrit très bien sur la nostalgie, le vague à l'âme, et la musique, je trouve, de manière générale, devient un peu plus lumineuse aussi, plus organique. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, un peu cette évolution, je vous propose d'écouter un peu de musique, à savoir le morceau Light Off, issu de son dernier album, Hilo.
J'aime bien quand t'éteins la lumière, quand tu fais froid dans la ville, que la lune danse en secret. Je préfère quand t'éteins la lumière. Je me sens mieux dans le silence quand l'obscurité résonne. S'il te plaît, dans la lumière. Je voudrais rester tout seul pendant quelques instants. J'en supplie, ne rallume pas la lumière. Je me sens plus beau dans le noir, je sais faire danser les ombres. J'aime bien quand t'éteins la lumière. Quand tu fais froid dans la ville, que la lune danse en secret. Je préfère quand t'éteins la lumière. Je me sens mieux dans le silence quand l'obscurité résonne. S'il te plaît, dans la lumière. Je voudrais rester tout seul pendant quelques instants. J'en supplie, ne rallume pas la lumière. Je me sens plus beau dans le noir, je sais faire danser les ombres. J'aime bien quand t'éteins la lumière. J'ai la tête vide, je fais la chasse aux problèmes. On n'a pas la même vie, moi au moins je respire. Je reste digne, on résout pas le manque affectif avec la médecine. J'suis en magma, bien sûr que ça me convient pas trop. Je veux voyager pour de vrai, fuck un avion, fuck un bateau. J'suis en mission contre l'ennui.
J'suis en mission contre l'envie, fuck une role, il fuck un château. Ah, tu voulais qu'on se blesse, c'est réussi, j'ressens plus rien. Tu m'as brisé le cœur et depuis tu ressens plus le tien. Ah, tu voulais qu'on se batte, mais j'aime pas trop la bagarre. J'aime pas trop le danger, j'suis un chaton dans la savane. J'ai des techniques de protection un peu envahissantes. J'crois pas que vivre en communauté se fait en s'alignant. J'suis assuré comme never, je reconnais le chemin. Je sais fuir les parasites, je reconnais leur venin.
C'était Sheldon avec le morceau Light Off. Louise, je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh ben, c'était super, j'ai adoré ce qui s'est passé.
Ouais.
J'aime beaucoup cette petite rythmique de guitare là,
ouais,
cette
hein.
petite mélo.
Très efficace.
J'ai juste eu un peu de frissons dans mes oreilles parce qu'en fait sur le refrain, il fait une espèce d'ASMR là.
Ah ouais.
Ça me stresse. Parce qu'en fait, il fait les bacs et il fait les bacs que dans une oreille.
Ah, j'ai même pas fait gaffe au
ouais,
casque.
C'est vraiment pas grand chose, mais du coup,
perturbé.
Quand tu t'écoutes au casque, c'est un peu perturbant. Mais c'est trop bien. Moi, j'avoue que j'avais pas capté qu'il avait sorti un nouveau projet. Et Sheldon, j'avais écouté, je crois, le projet précédent,
Spectre,
je pense.
Ouais.
Ouais. Et j'avais kiffé. Mais tu vois, j'ai écouté, j'ai bien aimé. Mais sans y retourner spécialement et tout.
Ouais, je peux.
Et en vrai, tu vois, genre là, à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode ouais, c'est vraiment bien, c'est hyper bien écrit. Il a des super phases qui sont assez poétiques, assez jolies et tout.
Ouais,
donc,
j'aime beaucoup son écriture.
Ouais.
Je trouve qu'il a une belle sensibilité. En fait,
exactement.
Moi, c'est ça qui me touche. C'est pour ça d'ailleurs que je le ramène essentiellement pour l'ensemble. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui m'attire chez Sheldon, c'est cette sensibilité. C'est-à-dire à la fois cette sincérité, tu le sens à cœur ouvert et en même temps tu sens aussi tu sens beaucoup de pudeur, je pense notamment dans sa manière d'écrire, tu vois, du coup
ouais.
Tu passes par un peu par des images, des métaphores, des choses un petit peu éloignées mais qui je trouve sont très parlantes, c'est ça que je trouve assez beau. J'aime bien aussi cette manière qu'il a de parler de lui, en fait,
ouais.
De son rapport là dans ce morceau là par exemple, son rapport à la bagarre, la manière de dire que tu vois il se sent plus beau dans le noir, tu sais, ces
oui,
petites
son
failles
rapport au corps et tout,
ouais, ouais son rapport au corps et tout, je trouve ça en fait très sensible et touchant et j'aime bien du coup parce que il le fait déjà depuis au moins c'est ça le précédent album, j'aime bien cette manière d'incarner un autre type de masculinité, tu vois, et de l'assumer en rappant, c'est pas
ouais.
si commun encore je trouve dans le rap, donc ça j'apprécie beaucoup. Dans le même sens, je l'écoutais en interview chez Mehdi Maizi.
Étonnant.
Il lui demandait, ouais, c'est vrai, et il lui demandait, tu sais, c'est quoi ta première claque musicale ? Et lui, il répond Henri Dess. Tu vois ?
True though.
Déjà, mais exactement, moi j'ai trouvé ça à la fois très marrant, j'ai totalement connecté avec lui parce que moi aussi j'ai tellement écouté Henri Dess quand j'étais petit. Et je trouve ça très, très marrant comme manière de répondre parce que
ouais.
C'est vrai, on a tous été marqués par ça. Lui, il dit en plus qu'il était allé le voir à l'époque en concert et tout,
ouais.
Et que ça a été peut-être même ses premiers vrais souvenirs de musique, tu vois, de concert. Et donc, mais de l'assumer, tu vois, pour un rappeur
ouais,
dans les interviews qui font peut-être le plus de vues sur YouTube et répondre Henri Dess, tu vois, ça fait pas, je trouve, c'est pas une réponse
non.
classique de rappeur. Donc, ça, je
non,
trouve
c'est
ça.
C'est clair, mais je pense parce que aussi on a tendance à oublier. Quels sont vraiment les premiers trucs qu'on a écoutés quand
ouais,
on était petit, tu vois,
ah bah Henri
qui étaient des comptines, et donc en général Henri Dess.
Bah ouais, moi je trouve ça trop fort. Donc Henri Dess, pour ceux qui ne savent pas, peut-être parce que
oui,
peut-être des
gens
possible. Qui n'ont pas écouté ça, c'est une sorte de, c'est un chanteur pour enfants, tout simplement.
Exactement.
Ouais, une sorte de Chantal Goya au masculin.
C'est le Chantal Goya des années 90.
Voilà. Exactement.
Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur dans les nids, les petits s'écosillent tout son cœur. Le matin.
Dans ce morceau, moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très catchy. Le refrain, moi il me reste instantanément en tête. Il y a, comme tu disais, ça me fait penser aussi un petit peu à Gros Mot, tu sais, j'avais ramené l'été dernier dans cette vibe guitare très ensoleillée.
Ouais.
C'est assez paradoxal d'ailleurs avec aussi ce qu'il raconte, tu vois. J'aime
ouais.
bien ce contraste. Et je trouve que ça reflète bien quand même cet album et la musicalité de cet album que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est souvent assez dépouillé à base de boucles d'instruments assez simples, assez chaudes, assez soul. Et voilà, il y a pas mal de guitares puisque comme je vous disais, il est guitariste et multi-instrumentiste.
Oui, c'est ce que
et,
je me demandais.
Je trouve qu'il il exploite très bien la guitare sur beaucoup de morceaux de sa discographie, ce qui est plutôt, tu vois, c'est vrai que depuis quelques années dans le rap, il y a beaucoup de morceaux piano, un peu pour les trucs émotions, et bah lui c'est plutôt la guitare, et je trouve que moi c'est pareil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et il se dégage du coup une sorte de nostalgie dans sa musique, mais tu sais, teintée d'éclaircie et de moments plus légers, et voilà, du coup cet album Hilo est vraiment dans la continuité de Spectre, mais je trouve
peut-être avec encore mieux fait, tu vois, une sorte de step au-dessus. Et moi, j'ai le pressentiment qu'il va m'accompagner cette année parce que, tu vois, écoute après écoute, je m'attache à chaque nouvelle écoute à de nouveaux morceaux. Et si bien que là, j'ai quasiment liké tous les titres de l'album.
Bien
donc,
sûr.
Voilà, je sens qu'il va me suivre. Donc, la première recommandation, évidemment, c'est le nouvel album Hilo. La deuxième recommandation, c'est l'album Spectre. Et la dernière recommandation, j'ai envie de vous conseiller le projet Lune Noire qui est sorti en 2019 et que j'avais raté à l'époque, mais que j'ai rattrapé et j'ai bien aimé parce que l'album, en fait, prend la forme d'un conte futuriste mis en musique avec du rap, mais on retrouve aussi, par exemple, du reggae, de la chanson française, enfin un peu d'autres styles de musique qui sont des styles qu'il a pas mal écouté quand il était plus jeune. Et c'est vraiment un projet total avec du coup une histoire, des clips faits en animation, il y a une BD qui était sortie, il y a même un jeu vidéo, tu vois, donc te dire à quel point...
Impliqué quoi.
Ouais, quelqu'un d'impliqué, je trouve ça dit beaucoup aussi de qui est Sheldon et de sa manière de s'impliquer sur ses projets et de proposer quelque chose en tout cas de complet. Alors j'ai essayé de regarder malheureusement pour l'instant, je crois qu'à l'époque on pouvait jouer aux jeux vidéo sur le internet, là pour l'instant j'ai pas réussi à retrouver un lien, je sais pas si c'est toujours possible, mais le projet déjà d'une part est très intéressant, c'est à dire que juste que tu lances l'album, ça parle d'un petit garçon, enfin j'ai pas encore situé tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, je suis pas allé au bout, mais c'est... Je trouve ça très intéressant comme approche. Et voilà, je trouve que c'est une bonne manière aussi d'aller s'intéresser à Sheldon. Voilà.
Formidable.
Écoute, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Alors c'est vrai que oui, maintenant après coup, c'était pas si ensoleillé que ça.
Non.
Un peu contrasté. J'ai essayé de le ramener un peu avec la guitare à la fin, mais...
maintenant qu'on a fait le constat de fin, c'est que oui, on avait quand même des trucs plutôt... plutôt chill à ramener.
Voilà, exactement.
Au mieux chill.
C'est pas encore l'été.
Au
là,
pire,
c'est,
un peu déprimant.
Ouais. Il y a un peu de tout, mais d'émotions, c'est cool.
Non, mais c'est bien. C'est pas toujours la fête, juste parce qu'il y a du soleil, ok ?
Exactement.
Non, mais ça m'a fait plaisir de réécouter Sheldon, là. Je suis très contente. Ça m'a donné envie d'aller écouter le projet.
Bah, vraiment, le projet est top.
Superbe.
Bah, écoute, Louise, je pense qu'on va se quitter là.
Je crois bien, oui.
On annonce comme le prochain épisode sera...
Un épisode avec un invité.
Et on vous spoil pas, mais on a très hâte de discuter avec cette personne.
Ça va être super, je pense.
Ouais, complètement. On vous remercie à nouveau de nous écouter. Et puis nous, on se dit
à dans deux semaines.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.